Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La cuisine, la chambre, la salle de bain, une maison, un appartement, ces lieux de vie et de partage présentent, sans que l'on en ait toujours conscient, certains dangers, ces risques. Ce sont des chutes dans les escaliers, une brûlure en allumant le gaz pour faire la cuisine, des intoxications avec des produits d'entretien laissés à la portée des petites mains ou même des noyades, un jeune enfant qui glisse dans son bain. Ces accidents domestiques provoquent 20 000 décès en France chaque année. Dans plus d'un cas sur deux, ils concernent des enfants de 0 à 16 ans, l'âge de l'exploration, des expériences les plus diverses. Ces accidents qui, dans la plupart des cas, sont évitables, d'où l'importance de la prévention. Fermer à clé des armoires à pharmacie, surveiller un enfant qui joue, sécuriser une fenêtre à un étage élevé et pour les personnes âgées, limiter les facteurs de chute qui à elles seules provoquent 10 000 décès chez les plus de 65 ans. Avec nous en studio, Nathalie Hérisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale d'Attitude Prévention, une association qui regroupe les assureurs français. Également avec nous, le docteur Gérald Kierzek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, auteur de « Ayez les bons réflexes » aux éditions Fayard. Et puis nous allons retrouver en ligne de l'île de la Réunion, Élise, qui vient de lancer son association de prévention vers nous-mêmes, qui est basée donc dans le département d'outre-mer de l'océan Indien. En deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne du Sénégal avec le docteur Aminata Nakoulima, pédiatre à l'hôpital principal de Dakar. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Pour poser vos questions, bien sûr, le numéro de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75. Docteur Gérald Kierzek, ce n'est pas parce qu'un accident est, comme on le dit souvent, un accident stupide, pour qu'il n'en ait pas pour autant de graves conséquences. 11 millions de blessés en France chaque année, 20 000 morts. Ces chiffres fournis par l'Institut National de la Veille Sanitaire sont proprement effarants.
Oui, c'est effarant. Alors, il n'y a pas d'accident intelligent, c'est toujours un accident bête. La seule chose, c'est que parfois, il suffirait simplement de petits réflexes, de choses de bon sens et surtout de se mettre à la portée des plus vulnérables. C'est-à-dire que nous, adultes, on ne voit pas le risque, on ne voit pas le danger. Mais si on se met dans la peau d'un enfant ou dans la peau d'une personne âgée, on va tout de suite anticiper ce risque. Et il y avait une maison qui avait été faite par des assureurs, justement, qui montrait à l'échelle d'un enfant ce que l'enfant voyait dans une maison. Et c'est là où on s'aperçoit que la casserole qui pour nous est anodine, bah cette casserole, l'enfant il la voit de dessous, et si la queue de la casserole, eh bien elle est attrapable, eh bien on voit bien que l'enfant il voit pas qu'il y a la casserole, il voit pas qu'il y a de l'eau bouillante, il va juste voir la queue de la casserole et il va attraper avec sa main, qui est un réflexe naturel. Donc souvent ces accidents, ils pourraient être évitables en simplement se mettant à la place des plus petits ou des plus âgés.
Alors Nathalie Hérisson, votre association Attitude Prévention, comme son nom l'indique, travaille en premier lieu sur les gestes, ces petits changements à adopter dans le quotidien pour éviter ces accidents domestiques. Car on le dit, on va le répéter pendant toute l'émission, pour bon nombre d'entre eux, ces accidents, eh bien, ils auraient pu être évités. D'où l'importance primordiale de la prévention.
Oui, absolument. La prévention et la transmission des bons gestes entre parents et enfants. Parce que nous avons fait une étude et on se rend compte qu'il y a 9 parents sur 10 qui ne savent pas du tout évaluer le nombre de morts suite à un accident de la vie courante. C'est un phénomène encore assez méconnu, puisque les parents, tout simplement, n'ont pas conscience du danger. Par exemple, dans notre étude, on voit qu'il y a 4 parents sur 10 qui, devant un enfant, peuvent changer une ampoule sans débrancher la lampe, par exemple. Ce qui est un comportement dangereux, et d'autant plus dangereux parce qu'on le fait devant un enfant, donc on ne transmet pas le bon geste. Alors que tout simplement, un peu de bon sens, un peu de vigilance, ben, permettrait d'éviter bien des drames.
Alors la prévention encore est toujours en ligne. De l'île de la Réunion, on retrouve Élise. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir choisi, vous aussi, de vous impliquer dans cette lutte, dans cette prévention, à travers l'association que vous avez fondée ?
Alors la première raison, c'est déjà de sauvegarder les enfants. C'est notre futur. Et du coup, faire de la prévention, c'était pour moi une évidence. En fait, j'ai été pompier professionnel pendant 20 ans en métropole et j'ai assisté à des drames qui auraient souvent pu être évités également. Et j'ai dit qu'il fallait vraiment agir en amont et apprendre aux parents, toutes les personnes proches de l'entourage de l'enfant, à agir avant que l'accident arrive. Et après, dans un deuxième temps, savoir réagir si malheureusement ça arrive quand même, donc en mettant en place des initiations de gestes de secours spécifiques aux enfants et nourrissons. Donc voilà.
Les enfants les plus exposés, hein, docteur Gérald Kierzek, en fait un peu à chaque âge ces accidents domestiques, mais c'est chez les personnes âgées que l'on recense le plus de décès.
Oui, c'est les plus fragiles forcément, hein, qui sont derrière avec des conséquences, parce qu'il y a la conséquence immédiate de l'accident et puis il y a la conséquence indirecte de l'accident. Et on peut prendre un exemple, une chute chez une personne âgée avec une fracture du col du fémur parce qu'il y a de l'ostéoporose, donc on voit bien que c'est un cercle vicieux qui va se mettre en route malheureusement, et quelqu'un serait tombé normalement mais sans l'ostéoporose n'aurait pas eu de fracture, mais la personne âgée va faire une fracture, cette fracture risque de se compliquer, des complications, hospitalisation, complications liées à hospitalisation, etc. Et on voit bien que derrière se profile la dépendance. Et donc, c'est tout cet enchaînement de conséquences malheureuses qui pourrait être évité. Alors que la chute, à la base, c'est une simple chute qui n'aurait pas eu de conséquences particulières chez quelqu'un qui était en bonne santé. Donc, c'est vraiment les plus fragiles. Et c'est pour ça que c'est les deux âges extrêmes de la vie. Hein. C'est les plus jeunes et les plus âgés qui sont vraiment les plus touchés. Avec, encore une fois, une mortalité immédiate, mais une morbidité, comme on dit, c'est-à-dire des conséquences à moyen ou à long terme.
Alors, justement, comment prévenir en fonction de ces critères d'âge, Nathalie Risson, vous avez justement une communication de prévention qui est ciblée par rapport à ces différents publics?
Alors, nous venons de lancer effectivement une campagne de sensibilisation qui s'appelle « À la maison, assurons-nous de transmettre les bons gestes ?» Et l'idée, c'est de mettre en scène des parents qui ne sont pas forcément exemplaires devant leurs enfants, notamment dans la cuisine. Hein, bien, en fait, il faut savoir que quand on cuisine, il faut rester concentré sur le fait de cuisiner. On ne téléphone pas en cuisinant, on ne regarde pas la télévision, on reste concentré. Il faut savoir que la cuisine est quand même le lieu où il y a le plus d'accidents domestiques. C'est un lieu dangereux, notamment pour les brûlures, par exemple. Il y a 27% des brûlures graves qui se déroulent dans la cuisine. Il y a des risques de coupures également, d'intoxication. Donc, on n'hésite pas à ranger les produits toxiques en hauteur ou dans des endroits inaccessibles aux enfants. Bien entendu, quand on cuisine, on utilise les plaques du fond. On met sa casserole sur les plaques du fond ou alors on tourne bien la queue de la casserole pour que les enfants ne soient pas tentés de l'attraper. Et bien entendu, quand on fait réchauffer des aliments au micro-ondes, par exemple, eh bien on vérifie la température avant de le donner à consommer aux enfants. Voilà, donc on le voit, des gestes tout simples qui permettent d'éviter des catastrophes.
Nathalie Risson, justement, illustration hein, dans cette cuisine. Vous avez parlé de votre communication, message de sensibilisation que vous avez produit. On voit donc un père de famille avec ses enfants devant une plaque à induction, plaque chauffante, ambiance joyeuse, et puis l'erreur d'inattention qui aurait pu avoir de graves conséquences.
Allez, on coupe les oignons, poêle bien chaude.
Poêle bien chaude.
Et on fait sauter.
Et on fait sauter.
On laisse mijoter.
Et on tourne le poêle.
Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Attitude prévention. Donnons de l'assurance à la vie.
Alors, ces bons gestes à la maison, à Nathalie Risson, quand un accident se produit, comment ça se passe? On fait un diagnostic, on essaie de comprendre comment ça s'est passé, comment vous travaillez justement sur sa prévention en fonction des chiffres, en fonction des personnes justement qui se blessent ou à qui il arrive des drames à la maison. Il y a des stratégies pour cette prévention?
Alors, des stratégies, l'idée, c'est vraiment de pas culpabiliser les parents, mais d'essayer de faire en sorte que son logement soit assez sécurisé. Donc, par exemple, si on parle du salon, par exemple, donc on fait attention quand on prend l'apéritif entre amis, eh bien, où on a parfois la vigilance qui se relâche un petit peu, eh bien, on fait attention de ne pas laisser des cacahuètes ou des olives à portée de main des plus petits, puisqu'ils peuvent s'asphyxier, se suffoquer en avalant une cacahuète ou une olive, par exemple. On le sait très peu, mais il y a des plantes qui sont toxiques, qui font partie de notre quotidien, comme le ficus, par exemple, ou les lauriers roses. Ce sont des plantes tout à fait communes. Eh bien, pour les plus petits, s'ils sucent les plantes, les feuilles de ces plantes, eh bien, ils peuvent tout à fait être intoxiqués. Donc voilà, des gestes simples. On évite par exemple, de mettre devant les fenêtres des meubles qui pourraient permettre d'être une sorte de marchepied pour que l'enfant puisse enjamber la fenêtre. Hein. Le risque de défenestration est très important. Donc, on sécurise aussi ces fenêtres, tout simplement. Voilà, des gestes, encore une fois, assez simples pour éviter des drames à la maison.
Docteur Gérald Kerziek, vous vouliez réagir.
Le tout, c'est d'y penser avant. Et la prévention, c'est pas de l'interdiction. Bien sûr, il faut de la fermeté, mais c'est aussi de la pédagogie. C'est des moments de partage. C'est le moment, et on l'entend bien dans le petit clip, c'est aussi des moments de joie familiaux où on va partager et on va expliquer les choses. Et donc, c'est ce moment de partage et de pédagogie qui va servir à la fois pour les plus grands, mais pour les plus petits aussi. Les enfants plus grands peuvent expliquer aux plus petits aussi. C'est une espèce de chaîne qui se met en place. Et puis, sur la méthodologie, sur les accidents, il y a aussi des nouveaux accidents qui voient le jour, et notamment aux urgences, il y a des remontées d'informations. Je pense aux nouveaux accidents liés aux trampolines, par exemple, qui sont un peu une nouvelle catégorie d'accidents. Les trampolines se sont un peu développées. On voit
alors,
des
on
accidents.
Voit dans les jardins en France.
Dans les jardins en France.
Des gens installés avec un problème en particulier au niveau des filets.
Exactement, au niveau des filets. Alors après, c'est parfois des trampolines achetées dans le commerce chez nous, mais ça peut être des trampolines qui sont un peu improvisées. L'idée, c'est aussi à partir des services d'urgence de faire une remontée d'informations pour pouvoir dire, là, attention, il y a une nouvelle pratique ou il y a un nouvel objet et donc du coup, il y a de nouveaux accidents et donc on va faire de nouvelles méthodes de prévention. C'est important que ça aille dans les deux sens.
La prévention, on va retrouver Élise en ligne de l'île de la Réunion. Justement, ce repérage des risques, ce repérage en fonction bien de la taille des individus. On parle d'enfants, par exemple, de petits-enfants, également des besoins, de leur goût, de leur loisir. C'est quelque chose que vous faites avec votre association ?
Avec l'association, en fait, on va. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va directement chez les gens. Donc, on est dans leur milieu personnel. On va chez les gens, on va chez les assistantes maternelles. Et on essaye de voir au plus près de ce qui pourrait les inquiéter. Et comme on l'a dit précédemment, effectivement, c'est surtout de ne pas faire culpabiliser qui que ce soit. Parce que ce n'est pas du tout le but. C'est déjà quelque chose de très compliqué pour beaucoup. Les mesures préventives qu'on peut leur apporter, c'est souvent pris comme une contrainte. Et ils ne voient pas forcément l'intérêt que ça peut avoir, parce que ça leur est jamais arrivé. Donc c'est un message qui est quand même assez compliqué à faire passer. Et nous, c'est vraiment le début sur la Réunion. On a des antennes qui sont déjà en place. Mais l'association, comme ça, qui se déplace carrément chez les gens, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, il faut aussi changer les mentalités. Il faut aussi changer toutes ces choses-là.
Avec ce travail de pédagogie. Merci beaucoup, Élise, d'avoir été en ligne avec nous de la Réunion pour témoigner de cet engagement dans la lutte contre les accidents domestiques. Et si vous le voulez bien, on va prendre tout de suite un auditeur en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Une auditrice qui est en ligne de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Nuptia.
Bonjour.
On écoute votre témoignage.
Alors moi, j'ai ma fille de 15 mois à qui la ménagère était en train de repasser les habits. Tout d'un coup, elle se lève pour aller dans la chambre pour déposer le panier des habits, des linges repassés. Du coup, c'est la petite qui remplace. Et elle tient le fer est tombé sur elle. Du coup, elle s'est brûlée. En se brûlant, je l'ai emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, bon, on a essayé de mettre la crème Biafine. On nous a demandé d'acheter Biafine. On a mis la crème pendant un mois et il n'y avait pas de changement, rien du tout. J'ai demandé à l'infirmière si c'était possible de voir un docteur ou bien une autre personne. Elle me dit non. On va essayer de changer un autre produit. On a changé le produit, on nous a prescrit Curapel, plus un autre produit comme ça, bon, enfin, j'ai oublié le nom. On a essayé de mettre au bout de deux jours, à deux applications, la plaie a commencé à se cicatriser et tout finir. Bon, depuis que la plaie s'est cicatrisée, bon, il a un trou qui est resté au milieu de sa main et la pomme est dure. La petite ne fait plus les mouvements avec sa main. Si elle veut se lever ou bien s'appuyer, elle utilise juste le bras et tout. Bon, je voyais ça. Toutefois, j'ai commencé à voir la main. Il n'y avait pas de changement. Enfin, la plaie est finie carrément, mais c'est la pomme qui est dure et ce trou-là. Je l'ai emmené chez le dermatologue. Bon, le dermatologue nous a encore prescrit la même pommade que Curapel. J'essaie de voir et la radio pour essayer de voir si réellement ce trou-là, ça n'avait pas touché l'os ou comment on a fait la radio. Il n'y a pas de problème grave. Ça n'a pas touché l'os, mais moi, mon problème, c'est le trou, là, essayer de savoir. quoi est-ce qu'un jour ça pourra finir? Ou bien la décision que j'avais prise pour aller voir le dermatologue, c'est le bon médecin? Ou bien, je ne sais pas.
Comment vous pouvez répondre à l'inquiétude de Nupcia, docteur Gérald Kierzek, atteinte dermatologique ou autre?
Alors, il y a plusieurs choses déjà. Sur le risque et sur la brûlure, bon voilà, il y a eu une brûlure il y a un mois, ça, le fer à repasser, c'est quelque chose de classique. Pour nos auditeurs, rappelons qu'une brûlure, pour limiter les conséquences, et on en parlera après de ces conséquences, il faut tout de suite avoir le réflexe d'arroser. On va arroser pendant au moins 10 minutes sous de l'eau à 10 degrés, donc ça veut dire pas de l'eau glacée et pas de l'eau chaude. Et l'idée, c'est de réduire les conséquences de cette brûlure qui
mettre
va
mettre la main tout simplement sous le robinet.
Sous le robinet et laisser couler pendant 10-15 minutes parce que ça va limiter la propagation de la chaleur et donc du coup la destruction, parce que c'est ça le problème, c'est que ça détruit la peau. L'autre risque avec le fer à repasser, c'est le traumatisme crânien aussi. La petite aurait pu se le prendre sur la tête, donc ça c'est un vrai risque. Donc le réflexe, on arrose la brûlure, et soit c'est une brûlure qui est simple parce qu'elle fait moins de la surface de la paume de la main de la petite fille ou de la victime, et à ce moment-là on va pouvoir mettre de la crème dessus. On met pas de beurre, on met pas de pommes de terre, on met une crème qu'on achète en pharmacie de façon à pas surinfecter la blessure. Et si cette brûlure, elle fait plus de la surface de la paume de la main de la victime, ou si elle est très profonde, elle est noire, ou si elle est un peu blanchâtre, et si ça ne fait pas mal, et paradoxalement quand ça ne fait pas mal, ça veut dire que c'est grave, parce que les nerfs sont détruits. Donc moins il y a de douleur, plus c'est grave en termes de brûlure. Et une brûlure grave, c'est une brûlure qui fait le tour de la main par exemple, ou le tour d'un membre aussi, parce que là on voit les conséquences avec la petite. C'est la peau qui va cicatriser, mais qui va se rétracter. Il y a des fibres qui vont empêcher les mouvements de la main, ou alors il y a une perte qu'on appelle une perte de substance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peau, d'où le trou que la maman décrit. Et là, le bon spécialiste, alors il y a le dermatologue, mais c'est surtout un chirurgien spécialiste de la main ou un chirurgien esthétique qui va pouvoir éventuellement faire une greffe de peau, parce que la peau s'est rétractée. Pour peu que la peau soit un peu avec une cicatrice kéloïde, on sait que les peaux, et notamment les peaux noires, ont plus de mal à cicatriser ou cicatrisent en excès, et donc du coup ça empêche les mouvements. Donc là, il faut peut-être faire un geste chirurgical pour pouvoir soit compenser le trou, soit au contraire libérer les fibres qui seraient en train de se rétracter, les fibres qui sont sous la peau.
Nupcia, est-ce que le docteur a répondu à votre question? Le médecin a répondu à votre question, le docteur Kierzek?
Oui, merci. Là, j'ai compris qu'il faut que j'aille au moins, je fasse recours à un chirurgien.
Exactement, orthopédiste ou chirurgien, donc chirurgien de la main, ou un chirurgien plasticien. Vous savez, c'est les chirurgiens qui font la chirurgie esthétique, mais qui ont une double spécialité, qui font esthétique et plastique aussi, et qui s'occupent en particulier des brûlés.
Pour rétablir cette élasticité.
Exactement.
Docteur Gérald Kierzek, justement, cette main, c'est souvent un espace du corps qui est touché avec justement une chirurgie d'urgence de la main pour ces accidents domestiques.
Alors, on a vu dans la maison, il y a des pièces à risque, la cuisine, la salle de bain, et sur l'organisme, sur le corps humain, il y a des organes à risque. Et évidemment la main, parce que le premier réflexe, c'est on attrape avec la main, c'est le premier élément du corps qui va être exposé. Et double risque, non seulement c'est plus exposé, mais en plus c'est très complexe une main, parce que dans une main, il y a à la fois des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins. Et donc, c'est effectivement une zone qui est vulnérable. Et donc, un bon réflexe. Alors déjà, les brûlures de la main, il faut considérer qu'elles sont des brûlures graves, parce qu'on voit les conséquences avec la petite fille de Nupcia. Mais on a aussi les plaies, par exemple. Une plaie de main, vous avez un couteau ou un tournevis, vous rentrez votre tournevis dans la paume de la main, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, même si c'est une toute petite blessure de quelques millimètres. Mais ce qui est important, c'est pas tellement la surface, mais c'est la profondeur. Et on peut léser un tendon, on peut léser un nerf, parce que le tournevis ou le couteau sera rentrer un peu profondément, même si la plaie, elle apparaît superficielle. Donc le bon réflexe, c'est toute plaie de main, toute blessure à la main doit être montrée à un médecin. Il va tester, il va regarder, il va tester les nerfs, il va tester au niveau des tendons. Et s'il y a besoin, il faudra orienter vers un chirurgien spécialisé de la main en urgence.
Alors, dans quelques minutes après notre point de l'actualité, on va retrouver les questions des auditeurs au sujet de ces accidents domestiques, et on va justement insister sur toutes ces mesures de prévention parce que à chaque pièce de la maison correspond une série de risques bien particuliers. On n'a pas vraiment évoqué, par exemple, des lieux comme la salle de bain, le garage aussi. Beaucoup de gens, en fait, sous-estiment les risques liés à l'extérieur de la maison, le jardin également, les cours. Tout cela, on en reparle avec vous, docteur Gérald Kierzek, avec vous, Nathalie Hérisson. Dans 3 minutes, ce sera juste après notre point de l'actualité. Le numéro de l'émission, 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux accidents domestiques. Connaître les dangers, changer certaines habitudes, installer parfois des dispositifs de sécurité, plusieurs pistes de prévention que l'on continue d'évoquer en compagnie de Nathalie Hérisson, secrétaire générale de l'association Attitude Prévention. Également avec nous, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris. Et on va retrouver les auditeurs de l'émission, puisque c'est en ligne de Lomé, au Togo, Laïsa que l'on retrouve. Laïsa, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors, moi j'ai une histoire qui aurait pu être dramatique, mais qui en fait s'est bien terminée. Donc, mercredi passé, je reçois un appel de ma nounou qui me dit que mes jumeaux de 3 ans ont sucé des comprimés. Et après, on s'est rendu compte que c'était des comprimés de Spasfon et ils en avaient sucé 28 d'une boîte de 30. Alors, la panique, vous imaginez, mon mari qui est médecin, il quitte l'hôpital, il revient à la maison pour voir qu'est-ce qui se passe. Et pour finir, ça s'est bien passé parce qu'en cas de surdose, apparemment, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de symptômes. Et puis, en fait, les enfants ont juste sucé l'enrobage et ils recrachaient après le comprimé parce que ce n'était plus sucré. Mais... vous voyez, dans mon histoire, j'étais en train de réfléchir sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la culpabilité. On en a déjà parlé dans l'émission. Les sachets, les comprimés étaient dans un sachet, attachés, dans la garde-robe, en hauteur. La garde-robe était fermée, dans ma chambre. Mais mes jumeaux ont réussi à rentrer dans la chambre, prendre une chaise, ouvrir l'armoire, grimper les étagères, trouver le sachet.
Faut pas sous-estimer l'ingéniosité des enfants. Hein. Ça dépasse toute notre imagination.
Exactement. Et pour eux, c'est un exploit. Ils étaient fiers d'avoir grimpé. Ils voyaient pas le danger. Pour eux, c'est l'exploit. Et ils étaient fiers de leur langue toute rose à cause des comprimés.
Docteur Gérald Kierzek, qui se pose deux questions. D'abord sur la dangerosité des médicaments. Autre chose sur l'attractivité de certains de ces comprimés, ces roses, et en plus, c'est sucré. Voilà, c'est un double problème, confondre avec des bonbons, tout simplement.
Bien sûr, surtout qu'on a tendance, quand on donne un médicament à un enfant, à lui dire « Allez, vas-y, avale, regarde, c'est comme un bonbon ». Et cette association, comme ça, dans la pédagogie, de dire « Le médicament, c'est comme un bonbon », dans l'esprit des petits,
c'est bon.
Un bonbon. Et puis, ça peut avoir un bon goût, puis c'est à la couleur, puis c'est à la forme, etc. Donc déjà, quand on donne un médicament, non, il faut expliquer, c'est un médicament, on te le donne parce que tu es malade, etc. Mais ne pas faire cette association avec le bonbon. Après, Lisa nous le dit, ils sont très malins, ces jumeaux, bien sûr. Et puis, c'est un jeu pour eux. Donc, les comprimés, ils doivent pas être dans un sachet. Ils doivent pas être dans une armoire. Ils doivent être dans une armoire à pharmacie fermée à clé dans la salle de bain. En tout cas, pas accessible. Parce qu'on voit bien que même si on pensait et elle pensait en tant qu'adulte que c'était pas accessible, forcément, c'est un peu un petit exploit, un jeu. Et ils sont arrivés à les trouver. Alors, heureusement, ce n'était que du Spasfon. Non, Spasfon, c'est pas grand chose, mais ça aurait pu être un médicament comme le paracétamol qui est un médicament qui n'est pas anodin parce que rapidement, on a des doses qui sont toxiques. Et puis, heureusement, ils n'ont pas tout avalé, etc. Donc là, l'histoire se termine bien. Et donc, ça veut dire que dans les conséquences et dans les leçons qu'il faut en tirer, il faut à tout prix enlever du sachet, de la penderie, etc. et le mettre dans un endroit qui est sécurisé. Et je remarque que son mari qui est médecin, on dit souvent les coordonnées sont les plus mal chaussées. Bah oui, on fait tous aussi des erreurs. Et moi, finalement, c'est en ayant les patients qui viennent aux urgences avec des accidents qui paraissent parfois un petit peu bêtes, j'ai changé aussi mes pratiques à la maison parce qu'il y a parfois des choses auxquelles on ne pense pas. Donc, il faut vraiment... encore une fois, tout sécurisé. Et quand ils sont deux, les jumeaux, j'allais dire, c'est un double facteur de risque parce qu'ils s'entraînent tous les deux, une espèce de compétition. Donc là, il faut être encore plus vigilant.
Laïsa, est-ce que vous avez changé vos habitudes depuis cet accident? Est-ce que, par exemple, c'est fini, les médicaments dans la maison? Est-ce que tout ça est sous clé dans une armoire à pharmacie?
Oui. Alors, en fait, on a ramassé les peu de médicaments qu'on avait dans la maison. On a des boîtes fermées, à clé, dans un autre bâtiment, en fait, en dehors de la maison, on a tout mis là-dedans.
Ça veut dire que malgré tout, il y a eu des enseignements à ce qui aurait pu être un drame et finalement qui a été assez limité comme conséquence.
Oui, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, Laïsa, pour votre appel de Lomé au Togo. On l'a vu, hein, une fois que l'accident est là, il y a des bonnes réactions. Quand il y a l'ingestion, par exemple, d'un médicament, docteur Gérald Kierzek, c'est quoi qu'il arrive aller aux urgences, hein, là pour un enfant.
Oui, ou en tout cas appeler le centre anti-poison ou l'équivalent du SAMU ou du
comme
centre.
Comme on dit par exemple, ne pas faire vomir l'enfant.
Alors, ne pas faire vomir. Sur des médicaments, on pourrait imaginer de le faire vomir parce que là, l'idée c'est d'évacuer les comprimés rapidement avant que les comprimés ne fassent leur effet, soient dissous dans l'estomac et passent dans le sang. En revanche, là où il ne faut pas faire vomir, c'est quand il y a une ingestion de produits toxiques. Par exemple, un produit acide ou de la soude caustique ou un produit pour déboucher les robinets, etc., les lavabos. Parce que là, le produit, il a fait des dégâts à l'aller, et si on fait vomir, il va faire des dégâts au retour. Donc, on comprend bien pourquoi il faut pas faire vomir. Le deuxième mauvais réflexe, c'est qu'il faut pas donner du lait, parce que là aussi, nos grands-mères disaient, ça neutralise rien du tout. Donc, on appelle ou on va aux urgences, bien sûr. Sur les comprimés, c'est peut-être le seul bémol où l'idée du vomissement est peut-être pas si stupide, parce que ça permet d'évacuer les comprimés avant qu'ils ne passent dans le sang.
Alors, tout de suite, on va voir comment ça se passe, hein, cette prévention des accidents domestiques du côté du Sénégal, également leur prise en charge. On rejoint tout de suite le docteur Aminata Nakoulima. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pédiatre à l'hôpital principal de Dakar. Alors, est-ce que vous avez tout d'abord des indications, des chiffres sur ces accidents domestiques pour le Sénégal ?
Malheureusement, il y a très peu de statistiques. Donc il y a deux études rétrospectives qui ont été faites dans notre service et qui montrent qu'il y a à peu près 40 à 50 admissions par an dans le service du fait de ces accidents domestiques. Mais cependant, je pense que ces chiffres sont vraiment la partie visible de l'iceberg. Nous avons vraiment une sous-estimation des réels effectifs liés à ces accidents.
Alors, chez les enfants, par exemple, quelle est la principale cause de ces accidents domestiques ?
Donc, ces accidents sont les étiologies sont dominées par 36% de traumatismes, à savoir les chutes, des escaliers, des balcons, des étages, et 30% liés aux intoxications, à savoir les ingestions accidentelles de produits, détergents. Et nous avons une particularité ici, c'est l'ingestion de soude caustique, qu'on appelle traditionnellement le rémé. C'est un produit qui est en vente libre sur les marchés, qui ressemble au yaourt. Et les enfants confondent avec un aliment et l'ingèrent accidentellement. Et cela crée de réels dégâts, des lésions œsophagiennes qui, lorsqu'elles se cicatrisent, rétrécissent le calibre de l'œsophage. Et vous savez ce que ça peut entraîner, des difficultés à s'alimenter après.
Et ça veut dire que ce produit, par exemple, il est en vente dans une bouteille comme les autres ou il est bien identifié, par exemple ?
Le problème, c'est que c'est très mal identifié. Il est en vente libre sur les marchés. Il peut être mis dans des sachets ou dans des petits pots. Et c'est là que vient la nécessité d'une prévention.
Ça veut dire, par exemple, y compris dans des emballages alimentaires.
Dans des emballages alimentaires, dans des sachets plastiques anodins. Et quand il traîne à la maison, l'enfant qui est en âge de ramper, en âge de manger, ou le tout porter à la bouche, le confond avec un yaourt et le porte à la bouche pour découvrir le monde. Et c'est ce qui crée ensuite les lésions œsophagiennes qui font. Et ces injections de soude caustique sont un véritable drame psychosocial, extrêmement douloureux pour les parents, ainsi que pour le personnel de santé.
Docteur Aminata Nakoulima, on va vous retrouver, hein, le docteur Gérald Kierzek voulait intervenir.
Oui, et c'est assez terrible la soude caustique, parce que autant un produit qui est acide, et ben l'enfant il va le recracher parce que ça lui fait mal quand il va prendre, ça va le brûler tout de suite, autant la soude caustique ou tous ces produits qui sont basiques, donc l'inverse de acide, et bien malheureusement, il n'y a pas ce réflexe comme ça de recracher, et donc il va continuer à pouvoir ingérer malheureusement, et les dégâts sont faits dans un second temps, avec des dégâts qui sont vraiment dramatiques, hein, parce que ça va descendre dans l'œsophage, et comme le disait la consoeur, ça va à ce moment-là nécroser, brûler, détruire avec des conséquences immédiates ou à moyen terme.
Alors, docteur Aminata Nakoulima, justement, vous, vos messages de prévention, de sensibilisation ?
D'abord, je vais axer mon propos sur la prévention, que nous n'avons pas, des messages de prévention qui n'arrivent pas à être diffusés à travers les médias. Et nous profitons des consultations de pédiatrie de routine pour faire passer nos messages aux parents. Donc il faut éviter les lieux à haut risque. La cuisine, les escaliers, les balcons ne peuvent en aucun cas être des aires de jeu pour les enfants. Dans notre contexte, il est extrêmement difficile d'avoir cela parce que les différentes parties dans les maisons familiales sont assez confondues. Il y a certaines habitudes domestiques qu'il faut proscrire, à savoir l'utilisation par exemple de l'encensoir. Nous avons l'habitude d'utiliser des braises pour faire diffuser des bonnes odeurs dans la maison. Et ces braises et cet encensoir peuvent être un objet dangereux pour l'enfant. L'utilisation des produits toxiques comme l'ingestion de soude caustique, qui est un accident qui est grave. Le message radical que j'aurais à donner aux parents, c'est que n'introduisez pas de soude caustique dans votre maison. Si vous voulez nettoyer les carreaux, laver le linge ou rendre ça propre, prenez l'eau de Javel ou tout simplement du savon. C'est déjà beaucoup plus simple. Et pour le cas particulier de l'arachide, parce que nous sommes dans le pays du bassin arachidier, nous avons souvent des corps étrangers des voies respiratoires inférieures. Un enfant de moins de 4 à 5 ans, il ne faut pas lui donner des graines d'arachide à mâcher, c'est tout. Et pour les autres messages de prévention, il y a des choses à ne pas faire en cas d'accident. J'insiste sur « à ne pas faire » parce que quand ces gestes sont faits à bon escient, ils créent plus de dégâts qu'autre chose. En cas d'ingestion de soude caustique ou d'autres produits détergents, il ne faut pas faire vomir l'enfant.
C'est un message qu'on a déjà dit. Merci infiniment, docteur Aminata Nakoulima. On l'a vu, hein, en fonction des différents risques, en fonction des différents accidents, il y a des conseils à retenir pour les parents quand ils sont face à ce genre de situation. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital principal de Dakar. Cette question, docteur Gérald Kierzek, l'importance aussi de connaître... En France, par exemple, les numéros d'urgence et pour les parents, par exemple en Afrique, de se rendre aux urgences justement quand on voit son enfant en situation de détresse.
Oui, et pas attendre qu'il y ait des conséquences. La soude caustique, c'est à retardement un peu, c'est un peu une bombe à retardement. Donc vraiment, quand on voit qu'il y a eu une ingestion de quelque chose, il vaut mieux surestimer le risque et y aller pour rien plutôt que d'attendre malheureusement cette brûlure sur l'œsophage ou que les comprimés de je ne sais quel médicament aient fait leur effet. S'il y a un numéro de service d'urgence, on peut appeler. Alors chez nous, on a le 130 poison, on a le 15. Également, dans certains pays d'Afrique, il y a l'équivalent du SAMU. Donc ça permet d'avoir un médecin au téléphone et de faire un peu le tri entre ce qui est grave et pas grave. Mais c'est vraiment important. Et puis, il y a des gestes à faire et à ne pas faire. Donc il faut motiver les gens à aller se former. Il y a des formations qui existent aux gestes d'urgence parce que ça permet là aussi de limiter les conséquences. Le mieux, c'est la prévention, avoir les bons réflexes avant. Et quand il y a malheureusement l'accident qui arrive, parce que parfois c'est imparable, eh bien, avoir le bon geste au bon moment, ça permet de limiter là aussi les dégâts.
Merci. Nathalie Risson, une association comme la vôtre, justement, on le disait, elle informe, elle fait de la prévention. Est-ce qu'il y a aussi, justement, des informations ciblées sur ces gestes de premier secours ?
Alors nous, ce que nous conseillons, c'est beaucoup d'éducation, hein, beaucoup de prévention, d'apprendre à ses enfants le plus tôt possible les numéros d'urgence, parce que malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un parent sur 10 en France qui ne connaissait pas forcément les numéros d'urgence. Donc ça, vraiment, il faut les mettre, les épingler sur son frigo, voilà, les numéros à connaître en cas d'accident. Donc l'idée, c'est vraiment d'éduquer dès le plus jeune âge. Je pense aussi que là... une façon d'éviter bien des accidents domestiques et d'essayer de ranger au mieux son environnement. On parlait du garage tout à l'heure. Effectivement, dans le garage, c'est un endroit dangereux pour les enfants, donc ils ne doivent pas y aller, mais on le sait, ils sont très astucieux, ils peuvent toujours se faufiler. Donc, dans le garage, on range bien les produits, on évite que les étagères soient mal fixées parce qu'on peut, après, les choses peuvent vous tomber dessus. Donc, voilà, on essaye de bien ranger, de sécuriser au mieux son logement. Et là, c'est bientôt Noël, donc c'est le moment où on va commencer à choisir les jouets pour ses enfants. Donc là, pareil, on fait attention à, évidemment, que les jouets soient aux normes, mais aussi qu'ils soient adaptés à l'âge de l'enfant. Donc on n'achète pas des jouets où il y a des petites pièces pour des enfants qui sont âgés de moins de 18 mois. Parce qu'ils
même
peuvent
si on
avaler.
Trouve son enfant très développé, très débrouillard, on respecte les âges sur... C'est pas pour rien qu'on a mis, justement, ces limites d'âge.
Oui. Il faut vraiment veiller aux limite d'âge, même si on a l'impression que son enfant est très mature, il reste malgré tout un enfant.
Vous parliez tout à l'heure du garage, vous parliez des risques pour les enfants, mais pas seulement, pour les adultes, on pourrait appeler aussi pour les bricoleurs du dimanche qui oublient parfois lunettes de protection, gants de protection, c'est totalement indispensable quand on utilise des outils qui sont parfois absolument redoutables pour les mains, pour les yeux.
Oui, absolument, et puis si y a de plus en plus de femmes qui font du bricolage, et tant mieux, eh bien il faut penser à s'attacher les cheveux, parce que par exemple quand on fait un trou avec sa perceuse, eh bien, les cheveux peuvent être entraînés par le mécanisme de la perceuse. Là, il y a vraiment des drames aussi. Donc, on enlève ses bijoux avant de bricoler, on s'attache les cheveux, et bien entendu, vous le disiez, on met des gants, des lunettes de protection. Et surtout, une fois qu'on a fini de bricoler, on range immédiatement les outils dans des endroits qui sont inaccessibles des enfants pour éviter après que les enfants viennent utiliser les outils pour imiter les parents.
Alors, installer des dispositifs de sécurité, hein, les gants, les lunettes, ça paraît évident. Il y a aussi tout un marché de la prévention, surtout destiné aux plus jeunes qui s'est développé. Certains disent que ça va brider leur instinct de découverte. On pense aux coins de table, on pense aux barrières pour les escaliers, on pense par exemple aux scotch antidérapants dans les escaliers qui peuvent être très utiles aussi pour les personnes âgées. Mais tout ça, c'est plutôt positif.
Oui, c'est plutôt positif, mais bien sûr, les outils de prévention ne suffisent pas, parce qu'un enfant peut se retrouver dans une maison de vacances ou chez ses grands-parents où il n'y aura pas toute cette protection. Donc, ça n'empêche pas qu'il faille passer les messages de prévention, même si chez soi, on a bien tout sécurisé. Un enfant peut se retrouver effectivement chez un ami où il n'y a pas de barrière d'escalier, par exemple, où il n'y a pas de cache-prise, où il n'y a pas de bloc tiroir. Donc, il faut éduquer avant tout.
Éducation et aussi, on ne l'a pas encore abordé, réglementation. On a vu par exemple apparaître, il y a déjà plus d'une décennie, les bouchons sécurité pour des produits d'entretien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des règles, des obligations aux fabricants, des obligations légales d'État, du gouvernement ?
Alors, on peut citer le cas des piscines privées. Effectivement, depuis 2004, eh bien toutes les piscines privées enterrées doivent être équipées d'un système de protection. Alors, ça peut être des barrières, ça peut être une couverture, un abri ou un système d'alarme. Donc ça, c'est pour éviter, parce qu'il y a quand même, l'année dernière, il y a eu 40 enfants qui se sont noyés, en fait. Hein, de moins de 5 ans, on a eu 40 décès suite à une noyade. Donc, les piscines privées, vraiment doivent être équipés de ces systèmes de protection. Et si les piscines, par exemple, qui ne sont pas enterrées, eh bien, on enlève systématiquement l'échelle après utilisation de ces piscines. Et surtout, on ne laisse rien traîner à la surface de l'eau. Parce qu'on l'a dit, les enfants sont heureusement très curieux et ont envie de tout découvrir. Donc, s'il y a quelque chose sur l'eau, ils vont être tentés d'aller explorer, d'aller chercher, d'aller plonger dans la piscine. Et surtout, puisqu'on est là sur le sujet des noyades, il faut apprendre à nager à l'enfant dès que possible, donc dès l'âge de 5 ans, voire 4-5 ans, on peut commencer à apprendre à un enfant à nager. Et ça, c'est la meilleure des préventions.
Et puis, on parlait tout à l'heure des innovations, des nouveaux risques. Quand des industriels mettent sur le marché de nouveaux produits, par exemple, les lessiviers en France ont lancé les pastilles hydrosolubles. Alors, peut-être tout le monde ne connaît pas ça. C'est le produit qui est dans une fine pellicule de plastique. Pour dire simplement, quand ça va dans l'eau, ça fond. Le problème, c'est que ça fond aussi quand ça va dans la bouche. Et pourtant, ça a été lancé sur le marché. Les boîtes ne sont pas forcément sécurisées. Et là, il y a de vrais risques pour les enfants.
Oui, d'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure avec l'espace fond et qui ressemble un peu à des bonbons.
Bah,
là,
c'est
aussi
attractif.
Ces petits berlingots, là, ces petites dosettes, ça ressemble un peu à des bonbons. Donc là, pareil, hein, même conseil de sécurité, on les place en hauteur dans des endroits fermés pour que les enfants ne puissent pas y accéder et les utilisent comme des bonbons, des friandises.
Il y a un travail en amont qui se fait avec les industriels justement pour penser à la prévention, y compris dans les emballages, y compris dans les conditionnements.
Oui, en effet, puisqu'il y a des mentions obligatoires qui doivent figurer sur des produits d'entretien ou sur des produits de bricolage. Donc c'est pour ça que c'est important de bien conserver les produits dans leurs emballages d'origine, puisque c'est bien sur ces emballages où on va trouver les bons pictos qui indiquent que ce sont des produits chimiques très dangereux. Donc on ne transvase pas un produit chimique dans un contenant alimentaire, par exemple, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'utilisation.
Et y compris parce qu'en cas d'ingestion, il faut connaître le nom précis du produit pour qu'on puisse réagir de la bonne façon.
Oui, absolument, pour donner des informations fiables à l'urgentiste qui va prendre en charge la personne.
Alors, pour revenir à la prévention, il existe des ateliers pour les parents, pour les sensibiliser aux risques domestiques. Comment ça se passe, ces ateliers ? Des ateliers pour justement la prévention où les parents sont confrontés à ces différents sites de risque.
Alors, je pense que dans certaines, c'est au niveau des PMI, hein, tout ce qui est protection maternelle infantile, en fait, où effectivement, il y a les premiers gestes qui peuvent être transmis, mais ça s'apprend un petit peu tout au long de la vie, en fait. Hein, donc, c'est un peu comme un vaccin, on le fait une fois, mais après, il faut qu'il y ait des rappels permanents en matière de prévention et d'apprentissage des premiers gestes, surtout que les risques, on l'a vu, évoluent au fil de l'âge des enfants.
Alors, tout à l'heure, en première partie d'émission, vous parliez d'une enquête d'opinion que vous aviez réalisée pour justement évaluer le niveau de conscience par rapport à cette prévention des accidents domestiques. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec les différents messages de sensibilisation que vous faites passer, eh bien, les consciences évoluent ?
Les consciences évoluent assez lentement, en fait, puisque on en parle finalement pas si souvent que ça des accidents de la vie courante. Pourtant, on l'a dit, hein, c'est 20 000 morts par an, c'est 11 millions de blessés chaque année en France. Mais on en parle moins régulièrement, par exemple, que les accidents de la route, puisque les accidents de la route, on a des chiffres fiables grâce à un très beau travail de la sécurité routière et on n'a pas l'équivalent en matière d'accidents de la vie courante. Donc, la prise de conscience n'est pas régulière. Donc l'idée, c'est de régulièrement alerter sur ces risques domestiques qui, on l'a dit là tout au long de l'émission, peuvent être facilement évités.
Et est-ce qu'il y a justement, c'est ma dernière question, une sensibilisation directe, je pense, aux écoles? Il y a de la prévention routière à l'école. Est-ce qu'il y a de la prévention des accidents domestiques à l'école?
Alors, à ce jour, un peu moins que pour les accidents routiers, en fait. Et pourtant, c'est vraiment, ça serait un angle de travail très important, puisqu'on sait que les enfants ont une grande conscience de la sécurité routière. Hein. Ils ont un très bon niveau de connaissance grâce à ce travail fait par l'éducation nationale. Donc, il faudrait que ça se développe aussi en matière de risques domestiques.
Une campagne d'information donc très importante, renforcement des réglementations, recommandations. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup à Nathalie Risson. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'association Attitude Prévention. Merci au docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, avec cet ouvrage qu'il a signé, Ayez les bons réflexes, publié aux éditions Fayard. Comme chaque lundi, notre page nutrition dans Priorité Santé. C'est avec vous Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste directeur de l'ONG Santé Diabète. Aujourd'hui, on va parler des aliments ultra transformés. Et pour commencer, bien sûr, petite définition Stéphane, qu'est-ce que l'on appelle ultra transformé quand on parle alimentation?
Alors, la notion d'aliment ultra transformé, qui est plus connue sous son nom anglais ultra processed food, a été popularisée par le professeur Monteiro au Brésil pour qualifier des aliments qui sont soit des produits destinés aux collations ou aux apéritifs, ou alors tous les produits et plats préparés industriellement qui vont être créés à partir de substances extraites d'aliments ou dérivées de leurs constituants. Ils contiennent donc peu d'aliments, j'allais dire entiers, et surtout contiennent beaucoup d'arômes, de colorants et d'autres additifs qui vont imiter ou intensifier la qualité sensorielle et la qualité gustative des aliments. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un marché énorme, puisqu'on considère que les gens consomment pratiquement plus de 70% de leur équivalent de consommation à base d'aliments ultra transformés. Et pour les gens, ce marché est devenu énorme pour trois raisons simples. C'est un, ils sont souvent prêts à être consommés, donc c'est plus facile. Leur composition les rend attrayants, c'est des aliments souvent qui font appel au plaisir. Et ils sont souvent moins chers ou peu chers parce qu'ils sont faits avec des aliments ou des bases plutôt bas de gamme et peu chers.
Alors, est-ce qu'il existe une sorte de classification des aliments en fonction de leur degré de transformation?
Alors oui, une classification a été faite parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ces aliments et qui est maintenant un peu celle qui fait référence, qui s'appelle la classification NOVA, et elle comprend quatre groupes. Alors le premier groupe, c'est les aliments, alors eux qui sont pas transformés du tout, c'est ce qui va être extrait directement du monde animal et du monde végétal, ça va être les œufs, les fruits et les légumes, donc qui vont juste subir un processus pour qu'ils soient bien en termes de qualité sécurité sanitaire, donc ils sont juste limités en transformation juste pour les rendre safe. Le deuxième, c'est les ingrédients culinaires transformés, mais très légèrement, qui vont subir juste une extraction ou un raffinage ou un pressage pour pouvoir les rendre consommables. Ça va être le cas des huiles, par exemple, ou d'autres types d'assaisonnement. Enfin, après, on a les aliments transformés qui, eux, vont subir une transformation, mais légère. C'est le cas, par exemple, des légumes en boîte de conserve ou d'autres préparations préparation ou du vin ou que l'aliment de base va être légèrement transformé. Et après, on arrive sur cette dernière classification qu'on appelle les aliments ultra transformés. Et ça, c'est maintenant un nombre immense de produits quand on rentre dans un supermarché. Ça va être les bonbons, ça va être les glaces, ça va être les boissons sucrées, qu'ils soient gazeuses ou pas, le poisson pané, les ailes de poulet, tous les plats cuisinés prêts à être consommés, les céréales du petit déjeuner qui, on sait, sont faites d'un alignement de plein de choses différentes, ou encore les energy drinks.
Alors, quel est l'impact sur notre santé de ces aliments ultra transformés?
Alors, leur composition pose énormément de problèmes parce qu'ils sont à la fois très caloriques et avec une composition très déséquilibrée en nutriments. Ils sont riches en calories, comme je viens de le dire, en graisse, en sucre et aussi en sel. Donc, tout en étant pauvres en fibres et en vitamines et minéraux. Donc, c'est un peu l'ennemi du diététicien, on va dire. Et en plus, leur composition, ce qui fait qu'ils sont souvent peu rassasiants, donc ils vont être mangés en grande quantité. Et donc, du coup, aujourd'hui, on sait que la très forte consommation de ces aliments va avoir un lien direct avec la croissance de plusieurs maladies chroniques non transmissibles, comme l'obésité et puis surtout le diabète.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Quelles recommandations, Stéphane, pour adopter une consommation adéquate en aliments ultra transformés, plutôt bien dosés?
Alors, déjà, je pense que le combat, il se fait, j'allais dire, presque à la maison, chez les gens. C'est-à-dire qu'il faut repartir des aliments bruts et recommencer à cuisiner. Ça, c'est quand même l'argument de base. Repréparer des plats sur lesquels on a la maîtrise à la fois de l'aliment de base, mais aussi de ce qu'on y ajoute. Parce que c'est un des problèmes des aliments ultra transformés. Alors après, il est aujourd'hui, pour des questions de temps, des questions d'organisation, très dur de tout préparer. Donc après, c'est d'additionner sur ces préparations maison les aliments les moins transformés et qui vont être le moins nocif pour la santé.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Et notre émission touche à sa fin. Demain dans Priorité Santé, nous allons parler des menstruations, émission présentée par Diaran Diaye. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet rfi.fr et le numéro de l'émission, hein, c'est toujours le 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.